Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Témoignages, faits de société, interviews ou récits, c'est leur histoire, une série de podcasts long format du Dauphiné Libéré.
Intime Conviction, c'est une série du Dauphiné Libéré en podcast et en vidéo sur la justice. Pour ce deuxième épisode, le Dauphiné Libéré va à la rencontre de Maître Cécile Gabion, un rendez-vous avec une avocate qui plaide en faveur d'une justice restaurative et pour qui la défense des mineurs joue un rôle clé. Intime Conviction, dans les coulisses de la justice, acte 2.
Bonjour Maître Cécile Gabion.
Bonjour.
Vous êtes une avocate connue à Grenoble pour plusieurs choses. On va parler des thèmes qui vous sont chers pendant cette interview, mais avant, je voulais savoir, et nous voulions savoir, ce qui vous avait conduit à cette profession.
Alors mon histoire est un peu particulière parce qu'au départ, je ne voulais pas du tout être avocat, je voulais être magistrat. Et puis, finalement, j'ai intégré l'école d'avocat et à l'occasion des stages que j'ai pu effectuer, je me suis dit que ce métier était quand même très intéressant. Et voilà, ça fait 21 ans que ça dure et je ne me vois pas faire autre chose.
L'une de vos spécialités, c'est la défense des victimes.
Oui.
On vous voit souvent à la cour d'assises ou en correctionnel assister des victimes et notamment des enfants mineurs. On va en reparler. C'est aussi un choix de votre part. Où c'est votre parcours qui vous y a conduit, comment ça s'est passé et comment ça se passe pour un avocat quand il se spécialise plus d'un côté ou de l'autre de la barre.
Alors, je ne sais pas si c'est une envie ou mon parcours, mais les choses sont ainsi que, effectivement, j'interviens beaucoup auprès des victimes et en particulier des mineurs victimes. Je pense quand même qu'il y a quelque chose de personnel qui vient me toucher et qui me fait, entre guillemets, même si le mot n'est pas le mieux choisi, aimer ce contentieux-là. Mais il est clair que l'accompagnement des victimes, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur parce que effectivement la victime a besoin de ce soutien juridique, qu'elle a aussi des droits dans le cadre du procès pénal, tout comme le prévenu ou l'accusé en a, et qui me tient à cœur effectivement de leur offrir cela.
Vous êtes l'un des avocats de l'association Chrysalis. C'est notamment dans ce cadre que vous défendez et que vous représentez des enfants victimes de maltraitance devant le tribunal correctionnel ou aux assises. Quelle est votre mission quand vous intervenez pour cette association ?
Alors oui, j'interviens effectivement régulièrement pour le compte de l'association Chrysalis, mais avant de vous en parler, je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'un mineur, dans n'importe quel cadre procédural, que ce soit civil ou pénal, il n'a pas la capacité juridique, donc il est en principe représenté par ses représentants légaux, c'est-à-dire ses parents. Et quand les parents ne peuvent pas ou ne veulent pas assurer cette défense, et bien effectivement, les magistrats sont contraints de désigner un administrateur ad hoc, et l'association Chrysalis est un des administrateurs ad hoc qui intervient à Grenoble. Donc la mission qui est la mienne dans ce cadre-là, mon client direct, c'est l'association, et l'association est effectivement le représentant du mineur concerné pour la procédure particulière pour laquelle il est désigné. Dans mon exercice à moi, je demande à peu près systématiquement à pouvoir rencontrer le mineur avec son administrateur ad hoc. Alors, on est bien d'accord que ça va dépendre de l'âge, puisque l'administrateur ad hoc peut être désigné pour des mineurs de 0 à 18 ans. Donc les mineurs qui ne sont pas capables de s'exprimer, quand c'est des bébés ou des très jeunes enfants, c'est l'administrateur ad hoc qui les rencontre et moi j'ai pas forcément besoin d'avoir un entretien. Mais dans la majeure partie des cas, effectivement, je rencontre le mineur en présence de son administrateur ad hoc parce que j'estime que c'est important qu'il sache ce qui est en train de se passer pour lui. Alors évidemment, on adapte son discours en fonction de son âge et de son niveau de compréhension. Donc on les rencontre avant l'audience et très souvent, quasi systématiquement, on fait un débrief après l'audience pour expliquer ce qui s'est dit, quelle décision a été prise, qu'est-ce qui va se passer. Parce que trop souvent, on peut se dire que finalement, le mineur, il est concerné sans l'être, quoi. Il va pas comprendre, on va lui charger un peu l'esprit avec toutes ces histoires, alors qu'en réalité, on se rend compte au cours des entretiens qu'ils ont plein de questions, qu'ils ont plein de réflexions qui sont souvent hyper pertinentes et que c'est très, très important de pouvoir effectivement répondre à leurs questions, leur expliquer ce qui va se passer, leur expliquer ce qu'on va faire pour eux et puis leur demander ce qu'eux, ils aimeraient qu'on dise pour eux. Pour moi, c'est fondamental aussi que le mineur qui me fait confiance ait la certitude que sa parole soit portée.
Comment on arrive à garder cette distance qui permet de rester lucide tout en ayant un contact avec l'enfant qui vit des choses terribles?
Déjà, il y a l'expérience. Je ne réagis pas comme je réagissais quand j'ai commencé mon activité professionnelle. Je pense qu'on apprend à se blinder, entre guillemets. Je pense qu'on apprend aussi à prendre du recul. Il m'arrive des fois de pleurer, hein. Ça c'est sûr, pas devant les mineurs, mais des fois il y a des affaires qui me touchent plus que d'autres, et oui, je suis avant tout un être humain avant d'être avocat. Donc il y a l'expérience qui aide beaucoup, parce qu'effectivement, c'est des dossiers globalement très difficiles, et puis moi personnellement, ça me touche quand c'est un mineur qui est concerné. Et il y a aussi une deuxième chose, moi, qui me protège et qui m'a toujours protégée, c'est ma robe. C'est-à-dire quand j'enfile ma robe pour aller porter ces paroles-là, je me sens protégée.
D'après vous, c'est peut-être un peu compliqué comme question, mais d'après vous, comment elle se porte l'enfance française? Est-ce que vous êtes très très souvent, plus qu'avant, confronté à des problèmes de violence sur les enfants?
Donc j'ai l'impression qu'effectivement, les mineurs victimes sont mieux pris en compte. Après, c'est un vaste sujet. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire et à mettre en œuvre pour, dans un souci de protection plus que de défense au sens pénal du terme, de dire on va aller porter leur parole en tant que partie civile. Mais d'une manière générale, je pense qu'en matière de protection de l'enfance, oui, il y a plein de choses à mettre en œuvre.
Comment vous préparez une victime de violence, de viol, d'une agression, à un procès devant la cour d'assises, qui est quelque chose forcément de très intimidant?
Souvent, quand même, l'audience devant la cour d'assises intervient assez longtemps après le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle. Donc je fais un premier rendez-vous pour savoir comment ça va, répondre aux questions, expliquer comment va se passer le procès. Des fois, je les emmène dans la salle d'audience pour qu'ils ou elles voient comment est organisée la salle d'audience, pour que ce ne soit pas le premier jour du procès qui débarque dans la salle qui est assez grande et qui peut être assez impressionnante pour des gens qui n'y sont pas habitués. Et après, je fais d'autres rendez-vous, alors un ou plusieurs, en fonction de ce dont moi j'ai besoin, de ce dont mon client a besoin, pour préparer le fond du dossier, reprendre les dépositions parce que souvent elles sont anciennes, reprendre les différents actes de procédure qui ont été faits. Je les prépare aussi à ce qui peut les mettre en difficulté. Je suis intervenue beaucoup pour des victimes de viol, les accusés reconnaissaient rarement les faits. Donc je pressentais que l'avocat de la défense allait plaider un acquittement et donc je prépare toujours à ça. Attention, voilà, il nie, donc son avocat va vraisemblablement plaider un acquittement. Et à la cour d'assises, ils sont 9 ou 12 à décider, donc voilà. Et ça, c'est important aussi. Mon objectif, en fait, c'est qu'il y ait le moins de surprises possibles, en fait. C'est qu'on ait pu envisager toutes les possibilités. Alors, je ne peux pas avoir la certitude d'être exhaustive, mais en tout cas, j'essaye de les préparer à tout ce qui potentiellement peut se passer. Après, les assises, il y a aussi cette particularité que c'est des audiences qui durent généralement sur plusieurs jours. C'est une espèce de bulle. Moi, je dis toujours ça, je suis dans ma bulle. Et en fait, voilà, je suis focus dessus, 100% dessus, et j'ai une mission à accomplir, et mon but, c'est d'accomplir la mission pour que, effectivement, mon client, il ait la sensation d'avoir été entendu, d'avoir été reconnu, que les choses qu'il voulait qu'il soient dites, etc., etc. L'après-assise, quand la pression retombe, parce que c'est aussi quand même une certaine forme de pression, oui, ça, les nerfs relâchent un peu, mais encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, je suis un être humain avant tout, et il m'est arrivé, je pense notamment à un gros procès d'assises que j'avais fait, après le verdict, de m'effondrer en larmes.
On ne peut pas aborder le thème de la défense en partie civile sans parler de la place de la femme dans la société, de la libération de la parole de la femme qui se produit depuis quelques années. Est-ce que vous constatez dans votre vie professionnelle cette libération de la parole ? Est-ce que vous constatez ce changement de la place de la femme dans la société ou pas ?
En tant qu'avocat, j'interviens une fois que la parole s'est libérée. Donc, je vous dirais qu'il est temps, effectivement, que les femmes puissent s'autoriser à parler lorsqu'elles sont victimes. Savoir si c'est plus ou moins qu'il y a 20 ans quand j'ai commencé, c'est compliqué pour moi de vous répondre. Ce qui est certain, c'est que parfois, je suis contactée en amont du dépôt de plainte et on me demande s'il faut déposer plainte.
Oui.
Ce qui me fait dire que c'est encore compliqué, qu'on a parfois des retours que même quand elles ont fait la démarche, ça a été extrêmement difficile. Alors, c'est de moins en moins vrai. Mais voilà, le fait que certaines femmes, en l'occurrence, ça m'est jamais arrivé avec des hommes, me consultent avant d'aller porter plainte, ou alors, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'elles me demandent de le faire, donc directement auprès du procureur de la République, me fait dire que c'est encore quelque chose qui doit évoluer et que, effectivement, toute personne, et là je vais élargir et pas seulement les femmes victimes, devraient pouvoir passer la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie pour déposer plainte.
La défense des victimes, ça amène à parler d'un autre sujet qui est celui de la justice restaurative. C'est un terme et un mode d'accompagnement alors des victimes et des auteurs qui est très peu connu de la population et des gens. Est-ce que d'abord en quelques mots vous pouvez nous définir ce que c'est que la justice restaurative ?
Alors la justice restaurative, c'est la possibilité d'ouvrir un espace de dialogue aux auteurs et aux victimes d'infractions pénales, qui est un espace confidentiel, qui est un espace sécurisé par un animateur formé et qui est un espace volontaire, c'est-à-dire qu'on s'engage dans un processus de justice restaurative. Si vous voulez vraiment appréhender ce qu'est la justice restaurative, vraiment, je vous invite à aller voir le film de Jeanne Herry qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages » et qui est vraiment absolument représentatif de ce qu'est la justice restaurative. Après, la justice restaurative, elle est inscrite dans le Code pénal depuis 2014, donc c'est quelque chose qui a bientôt 10 ans, et qui commence à se développer, et notamment à Grenoble, puisqu'un groupe projet de justice restaurative est à l'œuvre, que les premières mesures de justice restaurative sont actuellement en cours, mais c'est quelque chose qui, sur Grenoble, est relativement récent, ça a un petit peu plus d'un an.
Alors on est d'accord que ce sont des rencontres qui ne sont pas forcément entre un auteur et sa victime, c'est entre des auteurs et des victimes.
Alors, il y a plusieurs types de mesures. Vous avez les médiations restauratives, où c'est un auteur avec sa victime. Et vous avez ce qu'on appelle les rencontres groupales. C'est des auteurs avec des victimes, mais qui ne sont pas concernés par la même infraction, mais par le même type d'infraction. Pas forcément. Le parquet peut proposer, les magistrats du domaine pénal peuvent proposer, les avocats peuvent proposer. Dans les points justice, il y a aussi des prospectus qui présentent la justice restaurative. En fait, toute personne qui est concernée par une infraction, qu'elle soit auteur, sachant que du côté de l'auteur, il faut qu'il y ait une reconnaissance préalable des faits, et ou qu'elle soit victime, et pour la victime, il faut qu'il y ait une plainte, là c'est un préalable, toute personne peut demander à bénéficier d'une mesure de justice restaurative lorsqu'elle est concernée par une infraction. C'est quelque chose qui n'a aucun impact sur la procédure pénale, qui peut être menée en marge de la procédure pénale sous certaines conditions, notamment quand il y a une instruction en cours, qui peut être faite donc avant le procès, après le procès, qui est ouverte aussi, et là il y a un vrai champ d'action de la justice restaurative pour les infractions par exemple classées sans suite pour prescription, par exemple. Toutes les victimes de violences conjugales qui déposent plainte après le délai de prescription et qui ne peuvent pas avoir accès à un procès pénal peuvent bénéficier d'une mesure de justice restaurative sous réserve qu'il y ait une reconnaissance préalable des faits par l'auteur et que l'auteur soit aussi d'accord.
En fait, ce qu'on recherche là, c'est l'apaisement.
Tout à fait.
L'apaisement de la victime et puis... une certaine prise de conscience de l'auteur.
Tout à fait, de l'ensemble des répercussions. Alors, moi, je suis une jeune formée en justice restaurative. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert la justice restaurative il y a 2 ans, en préparant mon mémoire pour devenir médiateur classique. Et donc, j'ai découvert la justice restaurative à cette occasion-là. J'ai suivi une première formation théorique, et là, je me suis formée pour être animateur de justice restaurative au mois de mars. Donc, j'ai pas trop de recul, mais j'en ai quand même parlé à certains de mes clients, oui. D'abord, dans un procès pénal, victimes et auteurs peuvent difficilement échanger directement. Donc, tout ce qu'on peut pas se dire, tout ce qui a besoin d'être dit de manière confidentielle, un procès, pour la plupart, ils sont publics, parce qu'il y a aussi une forme de mise à nu pendant les rencontres de justice restaurative. C'est-à-dire qu'on vient là pour trouver des réponses aux questions, exprimer des choses profondes, intimes. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est absolument complémentaire, me semble-t-il, en tout cas pour un certain nombre de personnes au procès pénal, pour permettre de poser tout ce qui n'a pas pu être posé pendant le procès.
Est-ce que la justice française est laxiste, Maître Gabion ?
Alors, de l'expérience que j'ai moi, j'ai pas cette sensation-là. En tout cas, ça m'est arrivé de l'avoir, je peux pas te dire le contraire. Il y a quand même des dossiers dans lesquels je trouvais que la sanction qui était prononcée n'était pas conforme aux faits qui étaient reprochés. Mais d'une manière générale, j'aurais pas ce discours-là, mais de ce que je vois moi. Après, là où je peux témoigner de manière plus facile, parce que c'est mon métier, ce qui me chagrine un peu, je le dis, c'est plus, par exemple, dans l'arbitrage des préjudices des victimes. D'accord. Ça, c'est des fois...
Pas à la hauteur de ce que vous attendez.
Alors, de ce que j'attends, à la limite, peu importe.
Pour vos clients, non mais pour vos clients.
Peu importe. Ouais. Mais de la réalité du préjudice de mes clients, des fois, bon. Alors après, c'est pareil, on pourrait en discuter longtemps. Mais sinon, sur la question du laxisme vis-à-vis des prévenus ou des accusés, c'est pas le sentiment général qui prédomine chez moi.
Si vous aviez deux mots à nous donner pour qualifier les combats de votre vie dans votre métier.
Mais mon seul combat, c'est la justice.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.